sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Gulcine Erdi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Gulcine Erdi, vous travaillez à l'Université de Tours. Et précisément, vous travaillez dans la recherche et vous êtes sociologue, je crois, c'est ça?
C'est ça. En fait, je suis chercheuse au CNRS, localisée à l'Université de Tours, dans le laboratoire UMR CITER, Cité, Territoire, Environnement et Société.
Est-ce que vous voulez préciser plus en détail en quoi consiste le laboratoire CITER?
Alors, c'est un laboratoire en fait pluridisciplinaire. Il y a des chercheurs et enseignants-chercheurs en géographie, en sociologie, en aménagement, urbanisme, mais aussi en fait des chercheurs qui travaillent sur l'environnement. Les sujets phares, si vous voulez, de notre laboratoire, c'est les études urbaines et aussi les études sur l'environnement. En plus de ça, en fait, il y a des équipes qui travaillent aussi sur l'archéologie. Notamment, ils réalisent des fouilles dans les régions Centre-Val de Loire. Donc voilà.
Et alors, Gulcine Erdi, comment on devient chercheuse à Tours, à CITER? J'imagine qu'il y a tout un parcours universitaire avant.
Tout à fait, tout à fait. Bon, d'abord, il faut réaliser en fait une thèse, un doctorat. Une thèse de doctorat, et ensuite, une fois que cette thèse est terminée, bon, il y a des concours. Moi, en fait, j'ai fait le concours national du CNRS, concours national de chercheurs. Et donc, bon, j'ai été lauréat du concours et j'avais demandé mon affectation dans le laboratoire CITER. Et donc, je suis venue comme ça, en fait, à travailler au sein de l'Université de Tours.
Alors, pour une chercheuse telle que vous, pourquoi c'était attractif, le laboratoire CITER?
Parce que, en fait, ce laboratoire était directement en résonance avec mes thématiques de recherche, notamment les études urbaines. Et ensuite, avant de venir à ce laboratoire, je travaillais en Angleterre dans une université et je travaillais sur les mouvements urbains, mouvements socio-urbains et urbanisation en Turquie. Du coup, les collègues, en fait, dans ce labo, monter un projet de recherche au niveau national. Et ils m'ont contacté si j'étais intéressée à intégrer. Et du coup, ça a créé en fait une synergie de recherche entre nous. Et par la suite, quand j'ai été recrutée au CNRS, ben, j'ai préféré continuer à travailler avec les collègues de ce labo.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur le travail que vous avez pu mener sur la Turquie?
Alors, les travaux que j'ai menés sur la Turquie, en fait, il y en a plusieurs parce que tout au long de mon parcours, j'ai un peu ajusté, modifié aussi mes thématiques de recherche. Au départ, en fait, pendant mes études doctorales, j'ai travaillé sur les mouvements sociaux altermondialistes en Turquie, notamment en fait toutes les mobilisations autour de mobilisations contre la guerre en Irak qui avait lieu à cette époque-là, et aussi en fait tous les forums sociaux européens et toutes les plateformes des collectifs turcs qui participaient à ces événements altermondialistes. Ensuite, donc, je me suis orientée vers des contestations urbaines parce que suite en fait, à plusieurs projets d'urbanisation de grande ampleur en Turquie, il y avait énormément de mobilisation de quartiers, dans différents quartiers, dans les villes métropoles. Du coup, j'ai commencé à travailler sur ces mobilisations. Donc, qui m'a amené à mon projet CNRS, c'était de m'interroger sur la nature des projets d'urbanisation dans leur globalité en Turquie.
Alors, pour nos auditeurs étudiants qui peut-être ne sauraient pas ce qu'est un travail de sociologue, est-ce que vous voulez expliquer comment on travaille sur des mouvements sociaux? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Quels outils on utilise?
Alors, pour travailler sur les mouvements sociaux, il y a plusieurs méthodes. En fait, bien évidemment, quand on est sociologue, on est obligé d'adopter une posture de neutralité. et prend sa distance en fait avec les phénomènes sociaux qu'on étudie. Mais bien évidemment, on est des humains et on n'est jamais en fait à l'abri, si vous voulez, de ce qui se passe dans la société. Donc l'idéal, en fait, nous, ce qu'on fait, moi en tout cas dans mes recherches, ce que j'ai fait, c'était, moi j'ai privilégié la micro-sociologie, c'est-à-dire une sorte de sociologie qualitative, donc qui privilégiait les entretiens semi-directifs, donc des entretiens face à face avec les individus qui participent aux mouvements sociaux. Et aussi, j'ai réalisé des observations participantes, donc en participant en fait à l'organisation de ces mouvements, mobilisation. J'ai observé en fait le comportement, j'ai essayé d'analyser les répertoires d'action collective, quel type de répertoire les manifestants utilisaient. Et quelles sont les stratégies, quelles sont les tactiques développées. Aussi, on étudie, en fait, on essaie de tracer, si vous voulez, la trajectoire des militants qui sont dans les mouvements sociaux. Par exemple, actuellement, vous pouvez voir des travaux sur les gilets jaunes. Il y a beaucoup de sociologues, de mouvements sociaux qui étudient ce phénomène. Du coup, on essaye de comprendre, par exemple, le profil social, professionnel, origine sociale des personnes qui participent à cette mobilisation. Et aussi, on essaye de comprendre les motivations, les revendications. Donc, pour cela, on mène constamment des enquêtes qualitatives. On discute avec les individus, on essaye de tracer un peu le cheminement en fait du mouvement social.
Alors, pour préciser encore, qu'est-ce qui différencie un regard de sociologue d'un regard de journaliste, par exemple?
Ah, je regarde du journaliste. En fait, un journaliste déjà n'a pas une approche scientifique. Et lui, il va se contenter de présenter le mouvement, ses revendications. Il va parfois prendre parti et parfois non. Et cela étant, peut-être les collègues journalistes, ils vont contester en fait cette vision des choses. Mais les sociologues, ils essaient d'analyser d'une manière scientifique les mouvements sociaux. Donc c'est une enquête de longue durée. Ça prend du temps à comprendre, décortiquer, analyser la genèse d'un mouvement social. On essaie de regarder l'antécédent des militants on essaie d'analyser tout ça en fait à la lumière de l'état de l'art, en fait, en sociologie, qu'est-ce qui est produit auparavant, à la lumière des théories sociologiques qui essayent d'éclaircir ces phénomènes. Voilà.
Et alors, parce qu'on imagine bien que vous devez recueillir des heures d'enregistrement d'entretien, peut-être des données, en fait, des chiffres, si vous faites un calcul de, par exemple, sur un échantillon représentatif de personnes, toute cette montagne de données, comment vous les triez, comment vous les agencez,
Ah,
qu'est-ce qu'on en fait?
oui, c'est difficile, hein. Ça nous prend parfois des mois, en fait. C'est énorme. Alors, il y a maintenant de plus en plus des collègues qui utilisent des logiciels, par exemple, pour décortiquer tout ça. Moi, j'ai pas utilisé jusque-là. Ce que moi, j'essaie d'éviter d'enregistrer en fait les entretiens. J'essaie de noter et du coup, d'emblée en fait, j'arrive à dégager les parties importantes d'un entretien qui sont mobilisables, si vous voulez, dans notre analyse. Alors, c'est en fait justement, c'est aussi ce qui nous distingue un peu du travail journalistique, parce que déjà. Le travail prend du temps, l'analyse en fait du phénomène prend du temps, alors que dans le journalisme, il faut que vous faites les choses le plus vite possible. Vous faites quelques entretiens, et ces entretiens ne sont pas toujours représentatifs en fait de la communauté que vous étudiez. Et du coup, en fait, les articles que vous écrivez sont plus ou moins courts. Et nous, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. On est obligé, justement, d'essayer de voir d'une manière croisée, parfois, les pour, les contre, vraiment l'origine, le développement. Et on a besoin du recul. Par exemple, là, actuellement, il se passe un mouvement social sur la retraite. Il y aura des travaux journalistiques pour comprendre les revendications des grévistes, par exemple. Nous, on n'est pas encore en mesure de réaliser un travail sociologique là-dessus parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. On n'a pas encore, en fait, le mouvement est en train de se dérouler. Donc, il faut observer, analyser pendant plus longtemps pour pouvoir fournir un avis scientifique qui vaut, en fait, qui est valable sur ce mouvement social.
C'est-à-dire que le rapport au temps est complètement différent.
Ben, exactement. En fait, c'est ce que nous, on approfondit davantage pour comprendre. On va davantage au fond des choses. Et du coup, on analyse un événement dans toutes ses dimensions. On va, par exemple, essayer de comprendre les revendications d'un mouvement social, mais on va essayer de comprendre par la suite, en fait, pourquoi les individus participent à ce mouvement social. Qu'est-ce qui fait dans leur passé qu'ils sont devenus militants? Quelles sont leurs trajectoires sociales? Dans quel milieu social ils ont grandi et évolué? Donc, tout ça va approfondir, ça va agrandir la dimension de l'étude.
Il y a aussi une démarche intellectuelle qui est différente parce que peut-être que vous, à un moment, vous émettez une hypothèse sur les origines, donc il faut quand même du temps aussi pour voir si ça.
Exactement. Et ben, on a toujours en fait déjà une question de départ. On a toujours une problématique. On émet des hypothèses et on essaye de les vérifier sur le terrain. Il arrive parfois que en fait les hypothèses ne sont pas du tout vérifiées, ou bien parfois en fait on est un avis sur un phénomène social, un fait social. L'étude sur le terrain montre que cet avis, cette impression est complètement fausse ou erronée. Et puis voilà, en fait, à partir de là, on essaie de construire une thèse du fait social. Et les hypothèses confirmées, infirmées, et ça nous amène en fait à analyser ce phénomène d'une manière davantage théorique, avec des références théoriques, ce qui n'est pas le cas dans le journalisme, effectivement.
Et c'est vrai que d'ailleurs, peut-être pourtant que peut-être plus un historien d'ailleurs, mais que des coupures de presse, ça peut servir de matière, de base pour une recherche, d'ailleurs pour démontrer que
Tout à fait.
l'idée qu'on se faisait à l'époque d'une population, d'un fait, de quelque chose était fausse.
Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est un de nos outils, hein, les archives journalistiques, d'autres types d'archives aussi. Et les archives journalistiques, en fait, c'est aussi le reflet de la société. C'est un miroir, en quelque sorte, comme vous avez dit, à une époque, quand, en fait, il y a un traitement d'un tel événement, et ce traitement peut complètement changer avec le temps, avec le contexte social, etc. Donc, on utilise les journaux, en fait, les infos des journaux, comme justement pour analyser dans toutes ces dimensions les faits sociaux, mais aussi pour analyser les discours des acteurs, eux, quel est leur point de vue, comment ils perçoivent, par exemple, un fait social, et ça nous permet justement de faire une analyse croisée du point de vue des acteurs divers.
Est-ce que c'est une science du filigrane, en fait, la sociologie? Est-ce que c'est d'aller voir entre les lignes? Est-ce que c'est d'aller voir peut-être derrière les apparences ou quelque chose comme ça?
Bah, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de montrer ce qui n'est pas possible à être vu tout de suite. Donc, c'est aussi un regard décalé, en fait, de la société. C'est aussi de montrer les règles, en fait, qui règnent dans le fonctionnement d'une société. C'est aussi de montrer les choses qui nous paraissent naturelles, innées, qui ne sont pas finalement qu'ils respectent certaines règles, certaines normes, certaines valeurs qui sont des constructions sociales et qui sont pas là depuis l'éternité et qui sont les produits en fait de la société. Donc l'idée c'est aussi de montrer que tout est une construction sociale puisqu'ils sont les produits de la société.
Lucie Nardi, vous êtes donc chercheuse au laboratoire CITER. Nous sommes ravis de vous avoir ici dans la Méridienne. Et il se trouve que vous avez même choisi des pauses musicales. Alors peut-être qu'on peut écouter la première musique que vous avez apportée. Alors est-ce que vous voulez nous présenter cet artiste et ces artistes et cette musique?
C'est lequel?
C'est la musique turque, je crois.
Ah oui, Manga. Oui, c'est un groupe de rock en fait turc que j'aime beaucoup parce que ils arrivent à réunir à merveille, à mon sens, les rythmes de la musique turque avec la musique rock occidentale, si vous voulez. Et je trouve très touchant en fait leur musique. J'écoute régulièrement et puis j'ai voulu surtout faire connaître quand même un morceau de musique turque à ceux qui nous écoutent, si vous voulez.
Alors, juste avant qu'on écoute Manga, est-ce que vous voulez nous dire de quoi parle cette chanson précisément que vous avez choisie?
Bah, en fait, c'est une chanson qui parle un peu de la difficulté de la vie, des désirs en fait de celui qui chante, des choses qu'il a envie de faire, mais qui a des obstacles et c'est pas toujours évident. Et en fait, c'est le titre de la chanson, c'est la vie, c'est comme ça. Et parfois, il faut laisser courir les choses, et même si parfois c'est difficile, en fait, grosso modo. C'est ça. C'est pas une chanson d'amour.
Bah, faut varier les plaisirs. Alors, est-ce que vous voulez nous dire le titre alors?
Hayat bu işte.
Voilà. Merci beaucoup, Gülsin Erdi. Nous écoutons Manga sur Radio Campus Tour.
Kanatlarım gitmek dururken.
Nous écoutions Manga sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité Gülsin Erdi, chercheuse au laboratoire CITER. Alors Gülsin Erdi, si vous êtes là, c'est aussi pour parler d'un événement qui se profile à l'horizon, les 9 et 10 janvier 2020, je crois, au centre de vie du Sanitas. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi va consister ce colloque sur le projet Engagir?
Alors, c'est le colloque final de ce projet collectif, projet recherche collectif, qui a été financé par la région Centre. Donc, le projet, en fait, consistait à étudier l'engagement et la participation au prisme du pouvoir d'agir. Et il était en fait sur le rôle des centres sociaux et conseils citoyens en région Centre-Val-de-Loire, justement sur le développement en fait du pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Et si vous voulez, en fait le projet a été mené par plusieurs équipes, mais il a été déposé par mes collègues au CITER, notamment par Héloïse Ney, Julie Garnier et Catherine Neveu. Je crois qu'on a en fait vite terrain d'études dans les régions centres, et des terrains d'études, c'est-à-dire des centres sociaux dans différentes villes de la région. Et ce sont les chercheurs. Majoritairement femmes, chercheuses, on peut dire, comme c'est la majorité, chercheuses des universités d'Orléans et de Tours qui ont mené en fait ce projet à terme. Et donc notre colloque du 9 et 10 janvier va être en quelque sorte la restitution des résultats que nous avons obtenus pendant cette recherche.
Est-ce que vous voulez nous raconter, enfin nous expliquer plutôt en quoi a consisté cette recherche? Vous l'avez dit, c'était sur plusieurs sites, mais vous, précisément, comment vous avez travaillé peut-être sur le Sanitas?
Oui, en fait, moi, j'ai travaillé sur Sanitas. Je suis arrivée un peu tardivement sur le projet, hein. J'étais pas dans la phase montage du projet. Mon arrivée est aussi liée à d'autres événements. Parce que comme je vous ai souligné tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements urbains en Turquie. Et pendant 2016 et 2009, il était impossible d'aller faire du terrain en Turquie en raison en fait du contexte politique autoritaire. Et il y avait des universitaires qui avaient signé en fait une pétition pour en fait contester les traitements politiques de l'État turc en fait dans la région kurde. Et donc cette pétition a posé des problèmes aux chercheurs, dont moi. Donc j'ai pas pu en fait aller en Turquie, et du coup je me suis dit ça serait bien quand même de mener un terrain dans ma ville, puisque je vis à Tours depuis 17 ans, donc ça serait bien de lancer une recherche là-dessus. Et donc il se trouvait que ce projet venait d'être lancé, et donc les collègues m'ont intégré en fait dans ce projet pour étudier le centre social et le conseil citoyen à Sanitas, qui est toujours d'ailleurs l'objet d'un projet de rénovation urbaine, dont la première étape a été lancée en 2004, et actuellement en fait le quartier est l'objet de démolition et l'objet d'un nouveau projet de rénovation avec la construction de nouveaux logements, déplacement d'une partie des habitants du coup du quartier, et donc de transformation progressive du quartier. Donc il était question d'étudier comment les habitants perçoivent ce projet de rénovation urbaine. Et du coup, pour comprendre en fait comment ça se passe dans le quartier, et l'idée c'était d'étudier la place du centre social, quel rôle le centre social a joué dans en fait cette perception des habitants vis-à-vis du projet de rénovation urbaine, notamment à travers la notion de pouvoir d'agir. Est-ce que finalement l'idée c'était de voir si le centre social jouait un rôle pour inciter les habitants de prendre davantage d'initiatives pour participer au processus de décision? Est-ce qu'ils montaient en fait des mobilisations collectives ensemble? Est-ce qu'il y avait des actions de la part du centre social? Alors comme moi, en fait, je suis entrée dans le quartier en fait en tant que sociologue. Alors les choses étaient un peu différentes parce que il y avait des problèmes en fait au centre social, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de directeur. Donc le centre social était en quelque sorte en restructuration. Et donc, ils étaient quasiment inexistants en fait dans les débats par rapport à ce projet de rénovation, et, mais aussi par rapport au développement du pouvoir d'agir des habitants de Sanitas. Du coup, mes observations m'ont mené vers une autre structure qui était le collectif des habitants de Sanitas qui étaient très actifs à l'époque, donc à l'époque c'est fin 2017, et qui essayaient d'organiser des réunions, pétitions, des enquêtes auprès des habitants pour les mobiliser contre les démolitions des logements sociaux dans le quartier. Alors ils disaient toujours qu'ils n'étaient pas contre le projet de rénovation, mais ils étaient contre la démolition des logements sociaux parce que démolition des logements sociaux veut dire non-remplacement par les politiques de rénovation urbaine, parce que les politiques de rénovation, une fois qu'il y a une rénovation urbaine dans un quartier, vous n'avez pas droit, en fait, de remplacer. Il faut, parce que l'objectif, c'est la mixité sociale. Donc, pour la mixité sociale, à la place des logements sociaux, l'idée, c'est de construire des logements classiques qui sont destinés à des classes sociales moyennes ou classes sociales moyennes favorisées, supérieures favorisées, donc qui ont en fait des revenus plus élevés que les habitants actuels de Sanitas. Et du coup, en fait, j'ai travaillé pas mal avec ce collectif. Et au bout d'un certain temps, l'idée est venue de travailler aussi avec le Conseil citoyen, qui est censé justement représenter un peu les avis des habitants, à transmettre en tout cas, jouer un rôle de transmission des demandes, des revendications, disons, ou les envies des habitants du quartier. Donc j'ai commencé à participer à leurs réunions mensuelles à partir du début 2018 jusqu'en juin 2019. Donc j'ai participé quasiment à toutes les réunions et j'ai vu du coup la progression de la mobilisation à Sanitas, notamment avec l'arrivée du nouveau directeur du centre social. À partir de ce moment-là, le développement du pouvoir d'agir a incité les habitants en fait à prendre des actions, s'exprimer, exprimer aussi leur désir sur le quartier, a pris davantage d'ampleur à Sanitas. Donc mon travail, c'était justement observer un peu tout ça, comment ça se passait. D'un côté, en fait, le développement du pouvoir d'agir, engagement des citoyens, en fait, comme nous tous, citoyens lambda, quel type d'action du coup ils entreprenaient pour agir en fait sur les questions de leur quartier. Et aussi, on essayait de le faire en lien avec la politisation. Et pas la politisation au sens classique du terme, pas en fait participer aux partis politiques, faire partie en fait d'un courant politique, mais plutôt politisation de la vie quotidienne, c'est-à-dire être attentif, sensible aux questions politiques qui concernent, qui influencent notre vie quotidienne. Et on a essayé de mettre en lien, du coup, cette politisation avec la restructuration du quartier de Sanitas, et notamment les habitants avant et après le projet.
Et alors, Gulsine Erdi, il se trouve que vous nous avez apporté une archive sonore, même si vous préférez prendre des notes. Là, vous avez apporté une archive sonore, donc on va écouter un premier extrait. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ce qu'on va entendre?
Oui, en fait, ce sont des extraits qui viennent d'une réunion publique qui a été organisée au centre de vie de Sanitas l'année dernière. En fait, pas l'année dernière, hein, début de cette année. Parce qu'il y avait eu la projection d'un film sur Sanitas, un film documentaire réalisé en 2004, justement, au moment de la première vague de rénovation urbaine. Et après ce film, il y a eu un débat avec le public, les habitants de Sanitas. Il y avait pas mal du monde. Et en fait, ces extraits, c'est justement sur le projet de rénovation actuel, sur la transformation du quartier et sur les inquiétudes aussi des habitants, parce que voilà, en fait, ce projet va changer quand même leur cadre de vie, qui est important, qui compte pour eux.
Et donc ce film, c'est Quartier de mémoire, je crois, de Yvan Petit et Léa Toto.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc nous
Tout à fait.
écoutons un premier extrait que vous nous avez apporté.
Et ça vous plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, en fait?
Bah, non, c'est-à-dire que le problème, c'est de détruire des logements sociaux. Ou est-ce qu'on ferait que le quartier s'appauvrit dans l'ensemble de la population en France? Il y a quand même un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens. Donc, où est-ce qu'on va loger les gens? Alors, nous, on avait proposé aussi de réhabiliter, de faire de la rénovation des bâtiments, parce que le directeur de l'OPAC, Monsieur Simon, avait bien dit que les structures étaient bonnes. Ce n'est pas des bâtiments qui se fissurent. Les bâtiments ont été construits dans les mêmes années que là où nous on habite, dans les années 60, et ces bâtiments sont très bons. Donc, pourquoi ne pas rénover, réhabiliter, peut-être mettre des ascenseurs, peut-être agrandir les logements, enfin, modifier les appartements, mais pas détruire.
Débattir, madame.
Gulsine Erdi, voici un premier extrait de la captation au Sanitas que vous nous avez apporté. Qui parle et qu'est-ce qu'elle dit, cette dame?
Alors, c'est une représentante du collectif d'habitants de Sanitas qui justement refuse la démolition des logements sociaux dans le quartier et notamment la démolition tout court en fait des bâtiments parce qu'il défend l'idée, hein, elle explique dans l'extrait que y a les bâtiments qui sont prévus pour la destruction, ce sont des bâtiments assez solides. Et ils trouvent ça inutile, en fait, que les bâtiments solides soient détruits et qu'à la place de cela, la ville aurait pu tout à fait envisager une rénovation de ces bâtiments, la mise en norme et en fait augmenter un peu la sécurité des bâtiments. Et ça aurait pu tout à fait faire l'affaire. Et comme ça, non seulement ça coûterait moins cher, mais aussi, on démolirait pas, du coup, des logements sociaux. Donc, c'était un peu l'idée qu'elle défendait.
Est-ce que ça montre aussi peut-être qu'il y a un lien affectif avec leur bâtiment, les gens, ils aiment leur quartier?
Bah, ils aiment beaucoup leur quartier, hein, contrairement aux apparences, parce que ce quartier, quand même, il faut le dire, aux yeux d'un très grand nombre des habitants de Tours, c'est un quartier mal famé. C'est un quartier où il y a des problèmes de sécurité. C'est un quartier dans lequel il ne faut pas circuler le soir, parce qu'il y a des trafics de drogue, il y a beaucoup de problèmes du voisinage, du bruit. Donc, à gros, en fait, c'est un quartier infréquentable et dangereux. Or, en fait, pour les habitants de Sanitas n'a pas du tout cette image. Et tout en admettant en fait l'existence de ces problèmes, ils pensent qu'avec la concertation, avec la participation des habitants, en discutant ensemble, on peut trouver des solutions en fait à ces problèmes. Alors parmi eux, parmi les participants de cette réunion, par exemple, il y avait énormément de personnes âgées, disons, au-delà de 60 ans, qui vivaient dans le quartier depuis leur jeune âge. Il y en a qui vivent depuis 20-25 ans dans le quartier. Bon, ils tiennent à leur quartier. non seulement il tient à leur quartier, c'est aussi très pratique pour eux. C'est-à-dire que le quartier, c'est très proche du centre-ville. Et notamment les personnes âgées, ils m'ont très souvent dit qu'ils peuvent aller chez le médecin, chez le radiologue pour leur visite médicale, etc. très facilement. Il y a le tram qui passe par le quartier. Ils connaissent tout le monde. Ils ont l'impression d'exister dans ce quartier, parce que quand ils descendent dans la rue, ils croisent des gens qui leur disent bonjour, avec lesquels ils peuvent s'arrêter, discuter, donc du coup socialiser. Donc ça, le Sanitas, leur quartier, en fait, ça, c'est une remède aussi pour eux à leur solitude, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent toutes seules à l'heure actuelle. Et donc, il y a aussi des solidarités de voisinage. Quand on a des enfants, on peut laisser ses enfants chez les voisins. On partage des repas, on partage des relations. Donc, le quartier compte vraiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils étaient très remontés quand, en fait, la mairie a changé le nom de l'arrêt de tram de Sanitas à Saint-Paul. Pour eux, Saint-Paul, ça représente rien. Mais Sanitas, ça représente tout. C'est toute leur vie. Et d'ailleurs, ils disent toujours Sanit, en fait. Ils disent pas Sanitas, mais Sanit. Donc, c'est vraiment leur cadre de vie. C'est là où ça se passe, leur vie quotidienne, leurs relations sociales, leurs amitiés. Et c'est là où ils existent en tant qu'individus, en fait.
Mais ces solidarités et ces personnes âgées du quartier Sanitas, on les voit aussi dans le documentaire qui était montré, hein, Quartier de mémoire de Léa Toto et Yvan Petit, parce qu'ils ont filmé d'une part des femmes âgées, certaines sont encore là d'ailleurs, dans le quartier.
Oui, oui.
Et ça montre aussi que, parce que le Sanitas, souvent, on lui donne aussi une image de quartier, disons, pour être pudique, métissé.
Et tout à fait.
Et de dire, mais ouais. Voilà, et
on peut dire multiculturel.
Hein. Oui, voilà. Et dire, il y a aussi des personnes âgées, comme vous le dites, et voilà, que c'est vraiment, pour le coup, c'est multiculturel, vraiment.
Oui, tout à fait. En fait, quelqu'un m'avait dit, un représentant d'une association, j'ai oublié le nom de l'association, mais je pense que c'était une association d'aide qui fournit des repas, des choses comme ça dans le quartier. Et il m'avait dit qu'il y avait autour de 29 nationalités, disons origine ethnique, dans le quartier. Donc c'est énorme. Donc on peut le considérer comme un atout, par exemple. Si en fait des personnes de 29 nationalités arrivent à habiter ensemble sans que ça pose autant de questions de sécurité, autant de questions de problèmes qu'on peut imaginer, en fait, parce que tout le monde a ses préjugés, et que ça se passe plus ou moins bien, personne ne nie, il y a des problèmes, c'est pas non plus tous les jours, il y a des disputes, des bagarres, des affrontements dans la rue à Sanita, c'est plutôt paisible, parce que moi j'ai passé quand même 2 ans dans ce quartier. Presque toutes les semaines, 2-3 jours par semaine, franchement, j'ai pas rencontré de problème, personne ne m'a embêté plus que ça. Mais on dit pas que non plus c'est un quartier sans problème, il y a rien, c'est paisible, c'est magnifique, super, mais comme dans tous les quartiers, mais c'est quand même, il faut aussi voir un peu les atouts de Sanitas, ce multiculturalisme, c'est aussi en fait une richesse, tous ces habitants, ils viennent aussi avec leur culture, avec leurs habitudes, leurs traditions, leurs repas, leur façon de faire, façon de voir, donc c'est quand même aussi une richesse, donc je pense que il faut toujours essayer de voir aussi l'autre revers de la médaille. C'est pas toujours négatif.
Là, je m'adresse à la sociologue, parce que bon, le Sanitas, comme vous l'avez dit, c'est un des 7 quartiers prioritaires de la ville de Tours. Mais alors, est-ce que c'est pas un vrai raccourci de conclure que si, quand il y a des problèmes au Sanitas, c'est dû au fait qu'il y ait 29 nationalités ? C'est un raccourci ?
Ah, tout à fait, ça raccourcit. Mais en fait, quand on dit qu'il y a des problèmes à Sanitas, plus que les nationalités, ce qui est mis en avant, c'est le trafic de drogue. C'est les dealers, l'existence des dealers. Mais ça existe, hein. Personne ne le nie, ça existe. Mais après, Alors, ça va être politiquement incorrect, mais les dealers disent aussi à nous, on a des étudiants hein, qui ont fait des mémoires de master sur Sanitas, qui ont réussi à discuter avec deux, trois dealers à Sanitas, et qui disent, quand il y a trop de problèmes dans le quartier, c'est contre notre commerce. On veut pas qu'il y ait trop de problèmes, justement, parce que sinon, la police débarque et ça nous casse le commerce. C'est aussi, aussi bête que ça, mais c'est aussi une réalité sociale. Et il faut pas faire comme si ça n'existe pas. Il faut pas fermer les yeux sur des choses comme ça. Et pour revenir à des personnes âgées, je voulais dire ça tout à l'heure. Nous, on a mené, avec le collectif, on a mené une enquête de porte à porte dans le secteur Marie Curie, alors secteur Marie Curie, là où il y a, c'est autour du centre commercial Auchan, maintenant Simply, qui, à Sanitas, où il y a une boulangerie, en fait, une place neuve, je pense. Et derrière ça, on a fait des enquêtes et la majorité, une très grande majorité des habitants étaient des personnes âgées. Et ils étaient directement affectés, par exemple, par la démolition des bâtiments du secteur Marie Curie, là où il y aura plus de démolition. Et donc, et où ils vont aller, toutes ces personnes âgées? Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à d'autres quartiers de Tours? Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir toutes seules? Du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir, parce que la mairie de Tours a dit que finalement, avec le projet de rénovation, ceux qui veulent rester sur Sanitas après les démolitions du logement pourront rester sur Sanitas. C'était une condition obtenue du coup par la mobilisation des habitants. Mais est-ce qu'il y aurait de la place pour tout le monde? Ça, c'est la question.
Et alors, s'il n'y en a pas pour tout le monde, comment va s'opérer le choix?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est toute la question en fait, compliquée à mon avis. Qui sera le prioritaire, qui restera et qui ne restera pas. Ça, c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure.
Alors, on peut écouter peut-être un second extrait de cette captation, Gulcine Erdi. Alors là, je lance l'extrait et vous pourrez nous dire après de quoi il retourne. Donc, on rappelle hein, que c'est une captation que vous avez réalisée au centre social pluriel, c'est ça?
Non, en fait, c'est toujours pendant la réunion, voilà. la même réunion, mais les sujets changent. En fait, là, dans cet extrait, on parle de la gentrification. Alors, c'est une notion qui n'est pas connue de tout le monde. Gentrification, c'est... justement, on l'explique dans l'extrait. On en parle après, si vous voulez.
D'accord, juste pour savoir, qu'est-ce que ça veut dire gentrification? Qu'est-ce que ça veut dire gentrification?
Gentrification veut dire transformation d'un quartier, en fait. C'est en général des quartiers ouvriers, quartiers populaires. Les promoteurs immobiliers, en fait, il y a deux façons.
Mince, désolé. Parti pour une conversation à deux.
Non, mais c'est intéressant. En fait, gentrification, c'est un terme qui vient des pays anglo-saxons. Il y a deux façons de gentrifier un quartier. Soit des promoteurs immobiliers, en fait, entrent dans un quartier plutôt populaire, ouvrier, etc. Et avec des opérations immobilières, ils transforment le quartier.
En rachetant des trucs.
En rachetant ou en reconstruisant ou construisant de nouveaux logements, en installant des classes sociales supérieures. Dans le quartier.
Qui gagnent plus d'argent.
Exactement. Donc ça engendre en fait l'augmentation des loyers.
De tous les loyers du quartier.
Et ben oui, parce que en fait, comme il y a des classes sociales supérieures qui commencent à venir, du coup, ça fait grimper les loyers parce qu'ils sont capables de payer des loyers plus élevés. Donc du coup, ça transforme le quartier. Les familles populaires ne trouvent plus d'issue ou de possibilité de vivre le quartier. Donc ils quittent progressivement le quartier.
Et ils vont où ceux qui quittent alors?
Voilà, et on entend Léa Toto qui pose la question, mais ils vont où alors ceux qui quittent le quartier? C'est vous, Gulcine Erdi, qu'on entend dans cet échange?
Oui, oui, oui. En fait, justement, parce qu'il était question dans le film de cette notion de gentrification. Donc, la question était posée, donc j'ai essayé d'apporter quelques éléments. Pourquoi on a parlé aussi de la gentrification? Parce que, justement, dans le cadre du projet de rénovation, les habitants craignent en fait qu'une partie de Sanitas, notamment la partie la plus proche de la gare de Tours, soit gentrifiée. C'est-à-dire, on va détruire maximum de logements sociaux en fait, dans ce secteur. Et à la place, on va construire des logements destinés à classe sociale favorisée qui vont accéder au quartier. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça va en fait augmenter la valeur immobilière. Et ceux qui arrivent au quartier vont ramener d'autres. Et progressivement, en fait, ça va transformer le quartier. Et donc, ça va créer une sorte de valorisation foncière qui fait que les habitants actuels ne vont pouvoir plus subsister dans le quartier parce que ça va coûter très cher. Donc, c'était une crainte, en fait, dans les discussions. C'est pour ça qu'on a lancé... On a lancé ce débat et c'est aussi un phénomène qui arrive un peu partout. Hein. Tout s'inscrit dans cette tendance globale un peu partout en France, mais dans d'autres pays. De plus en plus, il y a le retour. Avant, c'était les banlieues. Maintenant, c'est le retour des classes sociales hautement favorisées vers le centre-ville. Et il se trouve que Sanitas est le seul quartier populaire qui se trouve dans un centre-ville.
Voilà, donc c'est pas une vue de l'esprit hein, de dire que les quartiers de ce genre sont en centre-ville sont appelés. On veut y faire entrer des populations plus aisées. Mmh. Ça existe par exemple à Lyon ou à Marseille.
Mmh. Tout à fait. Il y a de plus en plus de quartiers comme ça. Ben, à Paris aussi, à Goutte d'Or, hein, par exemple, à Belleville, c'était des quartiers autrefois très populaires, très ouvriers. Et au fur et à mesure, en fait, des personnes qui ont expliqué un peu ça, en fait, qui ont un autre capital social, comme des enseignants, des artistes, des personnes diplômées, mais qui n'ont pas d'argent, en fait, qui n'ont pas le vrai capital, mais qui cherchent des endroits agréables à vivre. Et il se trouve, ils préfèrent être avec des classes... sociale, classe moyenne ou les quartiers ouvriers, parce qu'il y a une véritable vie de quartier en fait dans ces quartiers. Et donc ils transforment progressivement et ensuite il y a d'autres formes, mais on n'a pas à mon avis le temps d'approfondir le débat dessus.
Vous reviendrez alors dans une prochaine fois si vous le souhaitez. Peut-être qu'on peut écouter un dernier extrait de cette captation parce que malheureusement cette émission est déjà presque finie.
Quand même, ça fait pousser quand même les classes populaires de vivre du centre-ville. Centre-ville, en fait, soit réservé du coup à la fin à des classes sociales supérieures et que les classes modestes ne trouvent plus de possibilités d'investir, vivre, faire des choses dans le centre-ville et qui sont poussées aux marges de la ville. Donc ça crée quand même une ségrégation socio-spatiale entre différentes classes sociales. Et c'est ça qui est problématique.
Et vous avez l'air de vous y connaître. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un exemple de gentrification où tout le monde a pu bénéficier de l'argent des uns des autres?
Non.
Bon, alors,
j'ai jamais vu. En fait, j'ai étudié pas mal de cas de gentrification, que ce soit ici, en Turquie, ailleurs. Il n'y a pas de cas de gentrification qui est bénéfique pour les classes populaires.
D'accord. Dès qu'il y a des riches qui arrivent dans un quartier pauvre, les pauvres bougent.
Voilà. Bah, forcément, ils n'ont pas le choix parce que bon, ça coûte cher, en fait, tout simplement.
On les pousse.
En fait, dans les premières façons de gentrifier, on les pousse par force par les promoteurs. Soit l'État, soit les promoteurs immobiliers. En fait, ils font pression, mais donc on les déplace.
C'est ce qui se passe au Sanitas?
Oui.
Un peu, oui, quand même.
Alors, c'est ce qui se passe au Sanitas? Demande Léa Toto, faussement naïvement.
Ouais.
Et ce colloque engagé, on le répète, le 9 et 10 janvier 2020, est-ce que ça va poursuivre cette réflexion? De quoi vous allez parler exactement? On voit qu'il y a quatre tables rondes.
Oui.
Est-ce que vous allez poursuivre cette discussion?
Bien évidemment, en fait, en soi, pour nourrir le débat avec des exemples concrets, on va parler de Sanitas, on va parler de projets de rénovation, les formes de gentrification en fait, qui engendrent ce type de projet de rénovation de grande ampleur. Mais aussi, l'idée, c'est valoriser aussi les centres sociaux et leur rôle en fait, dans les quartiers populaires. Donc, c'est-à-dire que dans ces quartiers, avec tous les problèmes sociaux, aussi les difficultés sociales que les habitants vivent, notamment aussi en termes de revenus, en termes de plusieurs problèmes de scolarisation, etc. Quel est le rôle des centres sociaux? Qu'est-ce que les centres sociaux sont en mesure de faire, sont en train de faire? Est-ce que, en fait, ils peuvent jouer justement ce rôle de pousser en fait les habitants, de motiver les habitants à développer leur pouvoir d'agir, les pousser à participer, prendre de l'initiative sur des politiques qui concernent leur vie quotidienne, qui concernent leurs besoins, leurs envies, leur quartier. On essaye aussi, on va essayer de discuter aussi de comment justement quel est le rôle des chercheurs, parce que c'est une recherche collaborative. Les représentants des centres sociaux de la région participent activement à la recherche. Ils ne sont pas en fait notre objet d'étude, mais ils font partie de notre étude. On fait les choses d'une manière collaborative et on se nourrit aussi de leur point de vue, de leurs difficultés, des difficultés qu'ils rencontrent dans ces quartiers. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait, comment on peut mettre en place une véritable participation des habitants, une véritable démocratie directe dans laquelle les habitants ont leur mot à dire, dans laquelle ils sont actifs. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les centres sociaux? Comment ils peuvent jouer ce rôle de relais dans la politisation, dans le pouvoir d'agir des habitants? Et en faisant ça, on s'interroge aussi sur l'effet des rapports de domination et de discrimination dans les quartiers, parce que les rapports de domination, on n'est pas toujours conscient en fait de ces rapports de domination, y compris au sein des centres sociaux, y compris au sein des conseils citoyens. Par exemple, quand on regarde les conseils citoyens, dans le cas de Sanitas, il y a beaucoup de femmes dans le conseil citoyen, mais c'est pas toujours le cas, et il y a très peu de personnes entre guillemets racisées, de couleur, qui sont dans ces conseils, qui fréquentent les centres sociaux. Du coup, s'interroger aussi sur les raisons, pourquoi en fait dans ces instances de participation des habitants, pourquoi on voit moins de femmes, moins de personnes d'origine immigrée. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment aussi de nous interroger sur nos propres pratiques. Donc, une approche réflexive.
Voilà, donc on le rappelle une dernière fois, Gulcine Erdi, c'est le pouvoir d'agir dans les centres sociaux, pardon, forme engagement, politisation et discrimination, 9 et 10 janvier 2020, centre de vie du Sanitas. Et comment on fait pour s'inscrire?
Alors, il y a en fait un lien, mais je pense que l'inscription est maintenant close.
Ah zut!
Oui!
C'était jusqu'au 10 décembre, jusqu'à hier.
Oui, mais en fait, il y a eu beaucoup. Les gens sont énormément intéressés en fait par ce colloque. L'inscription est close, mais moi, j'invite quand même les étudiants de l'université et ceux qui nous écoutent de venir quand même essayer d'écouter. Centre de vie de Sanitas, donc c'est une grande salle. La mairie a fait plusieurs fois des réunions publiques là-bas, donc c'est vraiment une grande salle. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour écouter, même si vous ne trouvez pas une chaise vide, peut-être debout, mais voilà. Donc tout le monde est bienvenu à ce colloque.
Et si on s'intéresse à vos travaux concernant la Turquie, où est-ce qu'on peut lire peut-être des choses? Est-ce que vous avez écrit des articles sur votre travail?
Oui, en fait, alors les étudiants connaissent sans doute le système Cairn, cairn.info. Là, quand on tape mon nom, en fait, on accède à tous mes articles sur academia.edu. Il y a mes articles aussi. Et puis, j'ai publié des ouvrages. Alors, j'ai publié un ouvrage intitulé « Altermondialiste en Turquie », paru aux éditions Alarmatan. Et j'ai publié un ouvrage en anglais sur « Identité, justice et résistance dans la ville néolibérale », pour parler, en fait, des différents cas d'études dans différents pays de l'Europe. Et cette année, par exemple, j'ai publié un chapitre dans l'ouvrage de Agnès Déboulet, Vulnérabilité résidentielle, pour parler de la vulnérabilité résidentielle dans les quartiers informels en Turquie.
Eh bien, on pourra indiquer toutes ces références sur le podcast, puisque cette émission sera évidemment mise en podcast sur le site de Radio Campus Tours. Grand merci à vous, Gülsin Erdi, d'avoir...
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Merci beaucoup.
Et on remercie aussi la compagnie Pipo, puisque c'est la compagnie Pipo qui nous avait fait parvenir ce document, enfin cette présentation du colloque Engagir. Et on va se quitter en écoutant une autre musique que vous avez choisie, Gülsin Erdi. Alors c'est quoi? Vous avez choisi quoi?
Alors faisons le choix de Pink Floyd. C'est le groupe que j'adore en fait depuis ma jeunesse et j'adore cette chanson en fait. C'est justement une chanson qui sur la jeunesse, sur les choses que quand on est jeune on se rend pas compte et ensuite les amitiés se cassent, on a les responsabilités de la vie réelle avec les fondations des familles, le boulot et qu'on est plus libre à la fin. Et que voilà, c'est très nostalgique, c'est aussi très mélancolique comme chanson, mais magnifique musicalement aussi. En même temps, les paroles sont magnifiques. Donc c'est High Hopes.
Alors on se quitte en écoutant Pink Floyd. Excellente journée à tous à l'écoute de Radio Campus Tours, bien sûr.
In a world of magnets and miracles.